Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide les lundis à 13h et le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Cité, vous avez donc fait le bon choix. C'est l'émission Nectar. Aristide est, comme toujours, fidèle au poste. Il a le plaisir de rencontrer ce matin monsieur Xavier Duprat au domaine des Curiades. Le domaine des Curiades, c'est peut-être un nom qui vous est familier, parce que c'est un des domaines phares de notre canton. Mais qu'est-ce que c'est qu'au juste des Curiades?
Alors tout d'abord, bonjour, merci de m'avoir accueilli pour cette petite interview. Alors le nom Curiade, peut-être que l'ancienne génération le sait mieux que moi, mais j'ai l'impression que ça vient vraiment du nom de la première parcelle en fait du domaine. On a une parcelle qui maintenant fait à peu près 2 hectares, plantée juste devant le domaine, et le nom vient de là, j'ai l'impression.
Voilà, donc ce serait en somme un lieu-dit, comme il y a beaucoup de lieux-dits qui remontent peut-être à une activité qui se tenait dans la région. Voilà. Alors, Curiade, voilà, il subsiste peut-être un certain point d'interrogation. L'histoire du domaine, ça nous intéresse. Quand on voit le coteau de Lully, splendide coteau, on dit qu'il était fait pour la vigne, davantage que pour les poireaux ou les betteraves. Votre domaine est extrêmement ancien, je suppose.
Alors exactement, en fait, sur ce coteau, il y a des vignes depuis à peu près le XIIIe siècle, avec les bénédictins qui ont planté des vignes ici en premier. Et puis après, c'est ce qui a donné un petit peu l'ébauche du domaine, si on peut dire. Ensuite, à partir du XVIe siècle, le marquis de Coudray était propriétaire du domaine. On a d'ailleurs une cuvée maintenant qui porte son nom pour lui faire hommage. Et c'est vraiment là que le domaine s'est un petit peu développé, déjà à cette époque. Et puis après, depuis 1909, notre famille, la famille Duprat, donc, qui acquérit le domaine directement après ce fameux marquis.
Voilà, donc marquis de Coudray, j'ai essayé de me renseigner. Tout le monde, enfin, pas tout le monde forcément, mais on connaît bien quand même sur le lac Léman, le golfe de Coudray, c'est près du village, qui n'est plus vraiment un village, de Sié. Et j'ai appris qu'il y avait une maison forte, une maison carrée, que l'on peut toujours voir aujourd'hui. Et c'est là que devait se trouver le marquis de Coudray. Donc autrefois, le canton de Genève n'existait pas comme tel aujourd'hui. Il était limité à la ville et tout ce qui est campagne avait différents propriétaires, de la France actuelle, la France voisine, etc. Donc le marquis de Coudray, qui se trouve à 40 km de Lully, possédait donc des terres tout à fait extérieures à son point d'ancrage. Voilà, marquis de Coudray, le château date de 1245, voilà. Maintenant, venons-en au domaine. On a lu beaucoup de choses pendant la crise Covid. Comment avez-vous traversé cette période tout à fait bizarre et inédite?
Alors effectivement, une période bizarre et inédite, je pense que ça résume bien cette période. Alors, comment on l'a traversé, ça c'est un petit peu difficile à dire. Nous, on travaille beaucoup avec la restauration, donc évidemment, au niveau du chiffre, beaucoup de pertes. On a essayé de travailler du coup un petit peu plus ciblé sur la clientèle privée, ça a relativement bien fonctionné, mais c'est vrai qu'au niveau du chiffre, ça ne rattrapera pas ce qu'on a perdu en restauration. Mais voilà, on a essayé de s'adapter un petit peu en favorisant un petit peu la livraison à domicile. On ne pouvait plus faire déguster nos vins aussi, donc ça c'était très compliqué pour nous. C'est vraiment une étape clé dans la vente en fait, la dégustation évidemment. Quelqu'un qui achète un vin, il aime bien l'avoir dégusté avant, et c'est vrai que en enlevant cette étape-là, c'était un petit peu plus compliqué. Mais on a aussi la chance d'avoir justement un domaine qui est assez connu, et c'est ça aussi qui fait qu'on a pu vendre un petit peu nos bouteilles quand même pendant cette période-là. Donc voilà, pour favoriser vraiment la livraison à domicile, vu que les gens étaient chez eux, on a vraiment mis un petit peu l'accent là-dessus.
Voilà, pendant cette période, on a entendu tout et son contraire, c'est-à-dire des vignerons qui disaient que c'était une période de basses eaux, en somme, que personne ne venait au domaine, et d'autres qui ont dit, on a réussi à se faire une nouvelle clientèle. Est-ce que les gens osaient venir au domaine?
Alors, pas tous. Pas tous. Déjà, les premières semaines, tout le monde pensait qu'on était fermé, donc évidemment, c'était un petit peu plus compliqué pour faire venir du monde. Mais non, c'est vrai qu'on a eu un petit peu les deux types de clients, ceux qui venaient directement au domaine où évidemment les mesures de sécurité étaient respectées, donc et ceux qui avaient un petit peu plus peur et qui préféraient soit nous téléphoner pour qu'on les livre, soit faire des commandes par internet. Et voilà, on a vraiment joué un petit peu là-dessus en proposant aux clients cette alternative, en évitant ceux qui avaient peur un petit peu de se déplacer. Ce qu'on peut comprendre évidemment, on a favorisé un petit peu ces livraisons à domicile.
On a entendu que la consommation à domicile avait augmenté, c'est-à-dire que les gens étant confinés, le soir, ils aimaient se faire plaisir en ouvrant une bonne bouteille. Donc, à part le sort de chaque vigneron, est-ce qu'on peut estimer que la consommation globale d'alcool, de vin, genevois, a augmenté pendant cette période?
Alors ça, c'est assez difficile à dire. Évidemment, pour nous, on pourrait le dire. Après, c'est toujours un petit peu compliqué, ces statistiques, parce que quelqu'un qui buvait sa bouteille au restaurant le soir, là, n'a pas pu le faire, et du coup, par déduction, je pense qu'il l'ouvrait chez lui. Voilà, c'est vraiment difficile à dire. On peut pas dire vraiment que la consommation a augmenté ou baissé. Ça, je pense qu'il y a des chiffres qui vont peut-être le prouver. Moi, je suis mal placé pour le dire. Après, ce qui est clairement visible, c'est qu'au niveau des ventes privées, évidemment, on a vendu un petit peu plus aux clients privés que d'habitude. Du fait que les gens ne pouvaient pas se déplacer au restaurant, je pense qu'en se faisant à manger chez eux, ils ouvraient plus facilement une bouteille, évidemment.
Je vous pose une question maintenant qui peut être délicate parce que je vois un crève-cœur derrière la situation. Certains vignerons ont des surplus, peut-être des invendus. Il leur a été offert pendant la crise Covid de céder leur stock de vin pour distillation afin que l'on puisse produire de l'alcool à brûler. Donc, pour se désinfecter les mains. Est-ce que pour un vigneron, ce n'est pas un crève-cœur épouvantable de devoir vendre ainsi son vin?
Bah oui, bien sûr, c'est sûr que... Alors nous, personnellement, on n'a pas reçu cette offre-là, mais au niveau de la profession, c'est vrai que c'est vraiment un crève-cœur, comme vous le dites. C'est vrai que d'avoir travaillé plusieurs millésimes, d'avoir un vin de qualité, de devoir l'utiliser pour faire du désinfectant, c'est un petit peu... C'est dommage, quoi. Vraiment, après, voilà, il y a de toute façon un problème au niveau du marché, suisse, dans tous les cantons, des stocks de vin assez grands, si on peut dire. Voilà, il y a de toute façon un problème au niveau du marché, donc c'est clair que c'est une alternative pour écouler des stocks, mais c'est pour moi pas la bonne alternative, c'est sûr.
Voilà, je fais une petite remarque un peu goguenarde. J'ai vu dans un supermarché d'une grande chaîne que je ne citerai pas, des petits flacons d'un demi décilitre vendus à peu près à 8 francs le flacon. Donc, alors, si on prend le prix de l'alcool à brûler en magasin, l'alcool à brûler qui permet de désinfecter les vitres, on s'aperçoit que ce désinfectant est vendu à 160 francs le litre. Ça serait rentable, non?
Ce serait même très rentable, évidemment. Quand on voit, typiquement, si on prend une bouteille de Chasselas, le prix d'une bouteille de Chasselas sur Genève, c'est aux alentours de 10 francs. La comparaison est assez vite faite.
Oui, c'est tout à fait terrible. Pause.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
Voilà, vous êtes sur Radio Cité, Aristide est au poste et il a le plaisir d'avoir pour interlocuteur Monsieur Xavier Duprat, qui est la nouvelle génération qui dirige le domaine des Curiades. Nous avons déjà retracé l'histoire du domaine. En somme, le coteau de Lully, est-ce qu'il offre un terroir particulier par rapport au Mandement? Est-ce qu'on reconnaît au palais le vin de Lully?
Ouais, c'est assez difficile à dire. C'est sûr qu'on n'a pas exactement les mêmes sols, mais évidemment, sur le Mandement est très grand aussi, donc on a aussi une diversité de sols qui est quand même assez grande. Nous, on est plutôt sur des sols assez lourds, donc plutôt avec des sols argilo-calcaires. Et on a aussi, du fait de la situation du coteau, un ensoleillement qui est journalier, si on peut dire. On a du soleil toute la journée, si on est bien exposé du côté sud du coteau. Après, de dire qu'on peut reconnaître un vin rien qu'à sa situation géographique, c'est un petit peu difficile, évidemment. Après, il y a aussi beaucoup la vinification qui entre en jeu. Donc, je n'irai pas jusqu'à reconnaître mes vins parmi les autres, à une dégustation à l'aveugle.
Donc on sait que certains vignerons, dans des dégustations, ne reconnaissent pas leur propre vin, parce que c'est vrai que le vin est d'ailleurs un produit vivant et que d'autres collègues peuvent faire des vins assez analogues. Est-ce qu'il y a des cépages qui réussissent mieux sur le coteau de Lully, des cépages qui, par vocation, en vertu de la spécificité du terrain, se plairait mieux?
Alors, bien sûr, il y a toujours des cépages un petit peu caractéristiques qui... et même des certains cépages historiques, typiquement le Chasselas, le Gamay, le Pinot Noir, tous ces cépages-là qui sont présents depuis très longtemps, que ce soit sur Genève ou sur le Coteau, bah évidemment, ils se comportent très bien dans cette région. Et après, bon, on voit évidemment aussi qu'il y a d'autres cépages, typiquement la Ligotée, qui se comporte très bien sur nos terroirs. Voilà, on a une gamme de cépages assez large et tous se comportent assez bien dans cette zone géographique. Après, on n'a pas fait actuellement beaucoup d'essais pour voir si certains cépages ne conviendraient pas à nos terrains. Mais en tout cas, les cépages qui sont présents sur le domaine s'y adaptent très bien. On voit aussi avec l'évolution climatique que certains cépages rouges, typiquement des merlots, des gamarets, des cabernets, arrivent maintenant très bien à mûrir sur nos coteaux, alors que des fois, il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années, c'était un peu plus compliqué.
C'est le changement climatique qu'on a maintes fois évoqué. Quand on pense à votre domaine, on pense en particulier à deux cépages qui sont peut-être l'emblème de votre domaine, à savoir le Chardonnay et l'Aligoté. Si je ne me trompe pas, ici chez vous, nous nous trouvons au chemin de l'Aligoté. Donc, parlez-nous de l'Aligoté.
Alors effectivement, l'Aligoté, donc on était le premier domaine en Suisse à planter de l'Aligoté. Cépage qui est venu un petit peu par erreur sur notre domaine, mais qui maintenant s'y porte très bien. Donc en fait, pour la petite histoire, c'est en fait un ouvrier de mon arrière-grand-père qui travaillait sur le domaine, qui avait ramené des plants en pensant que c'était du sylvaner, ce que mon arrière-grand-père avait voulu amener sur le domaine. Et en fait, il s'est rendu compte bien plus tard. Donc déjà que ce vin-là avait des particularités qui n'étaient pas encore présentes sur le canton, qu'on trouvait vraiment aucune similitude avec les autres sylvanaires. Et en fait, ils ont fait plus tard une étude ampélographique sur les pieds de vigne en fait qui étaient plantés, et ils se sont rendus compte que c'était de la Ligotée, mais c'était bien plus tard. Il y avait déjà du vin en bouteille. Ils ont dû changer toutes les étiquettes parce que évidemment c'était pas le bon cépage qui était mentionné.
Est-ce qu'on ne reconnaît pas le cépage simplement à la feuille, à la grappe? Je me suis laissé dire que par exemple la Ligotée était reconnaissable à ses grosses grappes.
Alors effectivement, grosse grappe, faut toujours parler en comparaison avec d'autres cépages, mais c'est vrai que la Ligotée est très productive, on peut reconnaître facilement, il a des feuilles assez grosses, et s'il ne fait pas forcément des grosses grappes, il fait en tout cas plusieurs petites grappes. C'est vrai que nous, c'est un cépage qu'on travaille depuis longtemps. On voit que pour avoir une bonne qualité, il faut quand même réguler pas mal la récolte sur ce cépage-là. Mais voilà, chaque cépage en fait a ses caractéristiques, que ce soit au niveau de la plante, que ce soit la couleur des rameaux, la couleur des feuilles, la taille, la forme des feuilles. Il y a pas mal de différences. Et évidemment, au niveau des grappes, ça change aussi beaucoup. Les tailles des grappes peuvent changer. La couleur des raisins sont aussi très différentes selon les cépages. Donc voilà, il y a beaucoup de caractéristiques qui rentrent en compte. Et un cépage donne une plante différente et donne évidemment une récolte très différente.
Éventuellement, il aurait été possible de le reconnaître à l'œil. À propos de la Ligotée, donc, selon mes faibles connaissances, c'est un cépage qui vient de Bourgogne. À l'époque, j'avais essayé de goûter quelques Aligotés bourguignons et je trouvais que les Aligotés bourguignons étaient nettement moins bons que les Aligotés genevois. Et voilà que depuis quelques années, je trouve que l'Aligotée bourguignon a fait des progrès en qualité. Il n'y a plus besoin de le sauver avec une petite giclée de crème cassis, on peut le boire comme tel. Est-ce que c'est une question de rendement qui, à votre avis, permet que les bourguignons fassent maintenant des Aligotés qui sont excellents?
Alors que ce soit les bourguignons ou d'autres vignerons, je pense que c'est vraiment le rendement qui est à la base de la qualité du vin, que ce soit de l'Aligoté ou d'autres cépages. Évidemment, quand on limite le rendement, on arrivera toujours à une meilleure qualité sur le vin, dans la mesure du possible. C'est clair que la limitation de rendement pour la vinification, elle est essentielle.
Un autre cépage caractéristique du domaine, c'est le Chardonnay. Je crois que vous avez été les tout premiers à l'introduire à Genève, aussi par accident.
Alors là, c'est un petit peu plus flou. Moi, j'ai moins d'historique sur le Chardonnay. Je sais qu'on a été dans les premiers à en faire sur Genève. Après, de là à dire qu'on était les premiers, j'ai pas le bagage historique pour le confirmer, mais il me semble aussi qu'on était dans les premiers à en faire sur Genève. Le Chardonnay qui est un petit peu moins sec et un petit peu plus fruité que la Ligotée. Historiquement, on est dans les premiers domaines à Genève à en avoir fait, c'est sûr.
J'ai cru comprendre que vous aviez des très anciennes vignes de Chardonnay. Est-ce que les plantations initiales ont subsisté? Parce que je pense que votre Chardonnay est venu il y a au moins 40 ans à Genève.
Alors oui, effectivement, on a des vignes encore qui ont un peu plus de 40 ans. Donc maintenant, on commence à être vraiment très très bas sur les rendements de ces vignes-là. Il y a une bonne partie qui a déjà été arrachée. Il nous reste une vigne, en fait, qui est encore très très vieille, qui risque d'être arrachée dans les deux prochaines années, surtout pour une question de rendement. Mais oui, c'est vrai qu'on a encore des pieds de vigne qui ont une quarantaine d'années de chardonnay sur le domaine.
Depuis lors, vous avez replanté des chardonnays parce que c'est un cépage à succès.
Voilà, exactement. C'est un des cépages blancs qui fonctionne bien en restauration, surtout, où on a pas mal de demandes. Donc c'est vrai que oui... Entre deux, il y a beaucoup de vignes de parcelles qui ont été plantées en chardonnay, avec des vignes un petit peu plus jeunes. On sera plutôt sur des vignes d'une vingtaine d'années, de 20 à 30 ans, si on peut dire, sur ces parcelles-là.
Ça fait pas mal d'années que je m'intéresse au chardonnay. J'avais dans ma cave, jusqu'à l'année dernière, une bouteille de chardonnay du domaine des Curiades, millésime 2000. Pensez-vous qu'en 2019, elle était encore bonne à déguster?
Alors ça, c'est très difficile à dire. Ça dépend beaucoup de la conservation, des conditions de conservation. Nous, on a aussi quelques vieilles bouteilles comme ça qu'on garde. On en déguste de temps en temps. Ça se tient très bien. Après, il faut savoir quand même que ça évolue sur des profils quand même très différents d'un chardonnay qui est sur la fraîcheur. Et sur le fruit, là, on aura plutôt du fruit épanoui, voire même des fois des notes un petit peu oxydatives qui arrivent sur ces vins-là, mais ça reste des vins qui sont bons encore à boire quelques années après. Le chardonnay est un des cépages quand même qu'on peut garder assez bien.
Je vous donne la réponse. J'ai dégusté avec grand plaisir. Il était tout à fait excellent. Bon, il avait pris une couleur extrêmement ambrée qui fait penser peut-être même à un vin du Sauternay. Il était d'un jaune extrêmement soutenu. Une question qui me turlupine presque un tout petit peu. À côté de votre domaine, il y a un grand champ avec des vaches souvent. Comment est-ce qu'il se fait que ce champ ne soit pas complanté de vignes?
Alors, c'est une très bonne question. Ben, ça dépend beaucoup du propriétaire. Le propriétaire, c'est pas nous. Donc, partant de là, on ne se voit pas planter des vignes sur un sol qui n'est pas le nôtre. Voilà, après, évidemment, c'est des sols qui suivent le coteau, donc il y a des vignes 2 mètres au-dessus, donc théoriquement c'est un sol qu'on pourrait planter en vigne. Après, bah voilà, c'est vraiment, ça dépend vraiment du propriétaire. Et vu qu'on ne l'est pas, je ne peux pas vous dire pourquoi il n'y a pas de vigne à cet endroit-là.
Donc actuellement, dans ce champ, il y a des vaches, et ma foi, bon, on a le droit d'aimer le lait aussi.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
Vous êtes toujours sur Radio Cité et nous sommes pour l'émission Nectar au domaine des Curiades sur le coteau de Lully. Voilà, nous sommes en présence de Xavier Duprat qui représente donc la nouvelle génération. En somme, la nouvelle génération est bien différente de l'ancienne. On voyait le vigneron d'autrefois, d'il y a peut-être 50 ou 60 ans, comme un paysan qui faisait peut-être aussi du blé, qui avait peut-être précisément justement aussi des vaches, qui faisaient des fruits. Vous vous consacrez maintenant exclusivement au vin. Donc vous vous centrez sur le vin. Donc vous appartenez à une famille de vignerons. Et est-ce qu'il était évident pour vous, lorsque vous aviez par exemple 10 ans, que vous deviendriez vigneron?
Alors j'ai toujours eu en tête, mais non, c'était pas si évident que ça. Donc moi j'ai travaillé dans l'horlogerie en fait avant de revenir sur le domaine. Donc c'est deux métiers où la qualité et la précision sont de mise, mais quand même deux métiers très différents. Et c'est vraiment un peu plus tard où j'ai commencé vraiment à me poser la question de pourquoi je ne reviendrai pas sur le domaine. Et ayant travaillé dans des bureaux pendant un certain nombre d'années, je me suis rendu compte que j'étais quand même mieux dehors à travailler mes vignes. Et même quand je suis à l'intérieur dans la cave, c'est un boulot beaucoup plus entraînant et passionnant que ce que je faisais avant, ce qui n'enlève rien au métier que je faisais avant. Mais c'est vrai que c'est quand même très différent, et de travailler, d'avoir le fruit de notre travail en bouteille à la fin, c'est quand même quelque chose de passionnant, et on va mettre toute notre énergie pour y arriver.
En somme, votre métier est extrêmement varié.
Exactement, en fait. De plus en plus, si on peut dire, on a évidemment la partie plus à l'extérieur, donc tout ce qui est travaux de la vigne, la partie vinification, où là, ça se passe plutôt dans la cave, jusqu'à la mise en bouteille. Et après, on a aussi tout ce qui est vente, qui est derrière. Donc ça, c'est aussi tout nous qui nous occupons de faire ça. Et toute la partie relation client, livraison, qui fait aussi partie du métier. Maintenant, on a aussi pas mal travaillé sur tout ce qui est Internet, réseaux sociaux et tout ça, évidemment, parce qu'on essaie de se mettre un petit peu à jour aussi, donc ça fait aussi partie du métier. Donc on a une palette de métiers très large en un seul métier, si on peut dire.
Vous êtes peut-être la 6e ou la 8e génération des Duprat, vignerons à Lully, je ne sais exactement. Est-ce que, comme jeune vigneron, vous sentez dans votre dos l'œil du père qui vous dirait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire?
Alors, nous, on est la 5e génération. Bien sûr, on sent toujours la génération d'avant qui regarde un petit peu ce qu'on fait, mais ce qui est normal, évidemment. Les premières années, ils regardent vraiment tout ce qu'on fait, et puis après, petit à petit, on commence un peu à nous laisser faire un petit peu plus. Moi, je trouve quand même très important de reprendre un petit peu ce qui se faisait avant et d'apporter notre touche, en fait, de pouvoir garder en fait le fondement du domaine, si on peut dire, qui reste pour la plupart de nos clients qu'on a eu en fait avec la génération, les générations d'avant, et de pouvoir apporter un petit peu notre touche pour toucher aussi une autre clientèle. Voilà, c'est ça qui est très important, c'est de garder ce qui se faisait avant et de pouvoir apporter quelque chose quand même.
Vous avez une certaine identité du domaine, et sans flatterie, je crois pouvoir dire que votre domaine est caractérisé par la rigueur. Voilà, est-ce que, comme jeune vigneron, vous souhaitez maintenant apporter des innovations?
Alors, des innovations, on en a... Donc, je dis on parce qu'il y a mon frère aussi qui fait partie de la même génération que moi. C'est vrai qu'on a déjà apporté pas mal d'innovations, si on peut dire. Je pense que cette approche, elle était déjà présente lors des précédentes générations. En fait, le domaine a toujours évolué un petit peu comme ça, en essayant d'innover, mais en gardant le côté tradition, en fait, qui nous tient très à cœur. C'est un petit peu comme ça qu'on a réussi à... Alors, je dis on aussi, mais c'est plutôt les générations d'avant qui avaient fait le travail. Ils ont plutôt réussi à faire justement cette approche entre la tradition et l'innovation, et de pouvoir justement avoir des clients comme ça. J'ai l'impression que ça a assez bien marché, puisqu'on a... On a quand même une bonne clientèle et souvent des retours assez positifs des produits qu'on fait. Donc voilà, vraiment garder ce que faisait la génération d'avant et essayer d'apporter notre touche. C'est vraiment un peu le mot d'ordre qu'on a sur le domaine.
Si on jette un regard historique sur le monde du vin, on s'aperçoit qu'au fil des siècles, la cote des vignobles a beaucoup évolué. Il y a des vignobles qui étaient célèbres au XVIIe siècle, par exemple, qui sont tombés en disgrâce, d'autres vignobles qui montent. Et alors, je vais vous poser une question qui m'est suggérée par la galerie de bouteilles que je vois derrière vous. Vous avez quelques bouteilles que je crois identifiées comme étant des monstres sacrés. Vous avez un alignement dans lequel je vois, sauf erreur, une demi-bouteille de Château Yquem, un Château Petrus et tout à droite un Château Marco. Alors on dit que ce sont des grands vins. Et alors, à la lumière de cette considération selon laquelle la cote des vignobles varie au fil des siècles, ne pensez-vous pas qu'à Genève, on peut un jour produire ce que l'on nomme ces grands vins et qui seraient davantage reconnus à l'international?
Alors peut-être, j'ai pas la prétention de dire qu'on le fera un jour, mais oui, bien sûr que ce serait possible. Je pense qu'on a maintenant un climat qui est très intéressant pour produire des grands vins, comme on peut dire. Après, bien sûr que le vin suisse en général a de la peine à s'exporter aussi. Donc c'est vrai que pour avoir un grand vin de renommée, si on peut dire, ce serait déjà un petit peu plus compliqué au niveau suisse, et bien sûr au niveau genevois du coup, plutôt à ce niveau-là. Après, c'est vrai que la renommée fait aussi beaucoup le prix du vin et la demande sur ce type de vin-là. Mais je pense qu'au niveau qualitatif, on pourrait peut-être un jour s'en approcher. Je n'ai pas cette prétention-là, mais je pense que ce serait possible, effectivement.
Oui, c'est ça. On constate effectivement que sur des bouteilles, il y a la mention grand vin et c'est peut-être une usurpation. On sait que malheureusement, tout un certain négoce du vin fonctionne selon les lois du commerce du luxe, donc que les prix sont sans rapport avec certaines bouteilles. Et je connais quelques personnes qui croient dur comme fer qu'un jour, on pourra en qualité égaler ces vins qui s'arrachent dans le monde entier, qui s'exportent dans tous les pays, qui font l'objet de spéculations. Bon, en somme, ce sont des dégustations à l'aveugle qui peuvent remettre l'église au milieu du village.
Alors peut-être bien, effectivement, c'est vrai que de ne pas avoir le nom du domaine, ni les appellations et tout ça, ça peut changer beaucoup la vision du dégustateur. Après voilà, comme je le disais avant, on n'a pas la prétention de pouvoir s'aligner sur des vins, sur ce type de grands vins qui sont quand même, bien qu'ils aient la réputation et tout, les seuls que j'ai pu déguster ont bien montré que c'était quand même des vins qui sont très très qualitatifs. Et pour nous, ce serait un peu gonflé, si on peut dire, de dire qu'un jour on fera des vins comme ça. On a l'espoir, bien sûr, d'y arriver, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile à en parler maintenant.
Je vous pose cette question parce qu'il y a peu de temps, je me trouvais en Bourgogne, je cherche l'excellence, et j'ai rencontré des vignerons absolument fabuleux, dont la marchandise était sublime. Et puis, le soir, chez moi, quand j'ouvre ma bouteille de Chasselas, je me dis, mais quel imbécile tu fais, pourquoi est-ce que tu vas en Bourgogne chercher, alors qu'à Genève, il y a des vins qui sont tout aussi jouissifs. Voilà. Donc, je redis encore une fois ma confiance dans le potentiel des vins genevois, mon admiration vis-à-vis de tous ces viticulteurs qui sont extrêmement compétents et qui tirent le meilleur d'un terroir qui est extrêmement prometteur. Voilà. Eh bien, je vous remercie, Xavier Duprat, de nous avoir mieux fait connaître votre domaine. Merci.
C'était un plaisir pour moi. Merci à vous de m'avoir accueilli pour cette interview. Je suis très reconnaissant.
Merci à vous. Vous m'avez accueilli chez vous.